Votre émission sur Nutri Radio vous est présentée par le laboratoire Bionutrix, groupe Metagenix, mettant la science au service de votre santé et de votre bien-être par la micronutrition.
Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio.
Bonjour Philippe.
Bonjour Fabrice.
Philippe Lenoir sur Nutri Radio, comment ça va? Vous êtes en pleine forme?
Oui, ça va, ça peut aller.
Bon, eh bien écoutez, on est ravis de vous retrouver pour cette semaine, semaine un peu écourtée. Vous avez fait quoi de beau ce lundi de Pâques?
Ah, moi je travaillais, j'étais à Balaruc, j'avais des consultations toute la journée.
Parlez un peu, tout petit peu plus fort, Philippe, parce que le son est, sinon n'est pas très très bon. On vous entend de manière un peu faible. Parlez bien devant le micro, c'est ça les réglages du live. Le docteur Philippe Lenoir, le lundi de Pâques, il travaille. C'est quasiment du 7 jours sur 7. Quel homme, on va pas faire croire ça non plus hein, à tout le monde, mais en tout cas, vous ne lésinez pas. Je ne vais pas dire en tout cas deux fois, on va enchaîner. C'est ce que j'étais en train de regarder là sur le petit conducteur de l'émission, parce qu'il y a évidemment un conducteur dans ces émissions. Aujourd'hui, nous allons encore plonger dans le monde de la santé et du bien-être avec une émission spéciale alimentée par les découvertes récentes et les sagesses anciennes de notre alimentation. Philippe, c'est vous qui allez nous en parler, vous allez vous y coller.
Et oui.
Une nouvelle étude récente qui jette un nouveau regard sur l'importance de notre alimentation pour notre longévité et notre risque de développer des maladies sérieuses. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, alors j'ai repéré cette étude qui est très intéressante. C'est une étude qui a été publiée dans la revue Advances in Nutrition et qui souligne en fait comment une alimentation saine peut réellement être notre meilleur allié contre le cancer, les maladies cardiovasculaires et plus généralement contre la mortalité, toutes causes confondues. Et donc, selon les résultats, suivre les recommandations alimentaires américaines, ça pourrait réduire le risque de décès, toutes causes confondues, de 10 à 22%, le risque de décès par cancer de 10 à 22%, et celui par maladie cardiovasculaire de 13 à 25%, selon la méthode de calcul.
Alors, c'est quand même assez significatif, et je crois comprendre qu'ils ont utilisé un indice particulier pour évaluer la qualité de l'alimentation.
Oui, alors pour les épidémiologues, pour calculer en fait la qualité de l'alimentation, ils ont plusieurs types d'outils. Et là, en l'occurrence, c'est un outil qui a été développé par le département de l'agriculture aux États-Unis et qui donne en fait un score basé sur l'adhérence aux recommandations américaines. Donc, c'est un score qui va de 0 à 100. Le score le plus haut traduit en fait une adhérence très élevée à ces recommandations. Et par exemple, selon que vous mangez pas beaucoup de fruits entiers, vous obtenez entre 0 et 5 points. Voilà, si vous mangez pas du tout de fruits entiers, vous obtenez 0. Et si vous en mangez beaucoup, c'est 5 points. Un peu le même principe pour les légumes verts et les haricots, les céréales complètes, les produits laitiers, les protéines végétales, les graisses saines. Les graisses saturées, c'est l'inverse. Les sucres ajoutés, c'est l'inverse. Le sel, c'est l'inverse. Et puis, les acides gras polyinsaturés et monoinsaturés, là qu'on trouve dans les fruits à coque notamment et dans les poissons gras, c'est ce qui compte le plus, hein, parce que si on adhère beaucoup à ce principe, on a 10 points. Et donc, les chercheurs ont réussi à déterminer qu'un seul petit point en plus, ça réduit de 0,42% le risque de mourir du cancer ça réduit de 0,51% le risque de maladie du cœur. Donc, on voit qu'on peut, chaque point compte et on peut augmenter les manières de prévenir en fait ces décès en optimisant toujours un peu plus, c'est linéaire on va dire.
On va marquer une première pause, Philippe, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
Depuis plus de 20 ans, Bionutrix, groupe Metagenix, allie science et micronutrition pour devenir le leader incontesté de l'innovation nutrition fonctionnelle. Du concept visionnaire à la réalisation de solutions exclusives de pointe, nous sommes la référence pour fournir des compléments alimentaires adaptés et de haute qualité. Notre mission est claire, améliorer la santé et la qualité de vie des patients qui nous font confiance grâce à la science. Bionutrix, groupe Metagenix, la rencontre de la micronutrition et de l'excellence scientifique pour la santé.
Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio.
Le docteur Philippe Lenoir est sur Nutri Radio pour cette médecine du mode de vie. Aujourd'hui, Philippe revient sur une étude qui démontre, évidemment, ça c'est pas nouveau on va dire, mais la médecine et la science avancent, voyez-vous. Donc dès qu'une étude nouvelle propose de nouvelles preuves d'intérêt sur la prévention santé, la réduction des maladies type cancer, maladies cardiovasculaires, etc., il faut le prendre en compte, surtout si c'est lié à notre alimentation. Donc juste avant la pause, Philippe nous expliquait... donner quelques chiffres et puis surtout les points, car cette étude dont vous avez parlé a établi une espèce de scoring. Vous êtes revenu sur ces points, entre 0 et 5 points, légumes totaux, les légumes verts, les haricots. Rendez-vous sur le podcast de cette émission à la fin de la semaine pour tout réentendre. Mais auparavant, Philippe, je voulais savoir si vous-même, vous vous alimentez correctement.
toujours ces questions personnelles, Fabrice.
Oui.
j'essaie de plus en plus. Après, nul n'est parfait et tous les jours, j'essaie d'optimiser. C'est pas évident. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'à Ballaruc, j'ai trouvé un petit resto, un petit restaurant entre midi et deux qui fait de la cuisine traditionnelle et qui sert en fait, des paellas, etc. Donc c'est la cuisine relativement méditerranéenne, voyez-vous.
Ah oui, c'est vrai.
Ça me convient bien.
Avec le petit café gourmand. Bon, est-ce qu'il y a des astuces pour améliorer le score dont vous avez parlé tout à l'heure, et surtout donc notre santé?
Ouais, alors Fabrice, ce que vous disiez est très vrai. En fait, on connaît bien tout ça, et les recommandations américaines elles ressemblent furieusement aux recommandations françaises, les recommandations du PNNS. Et donc, par exemple, si on veut améliorer ce score, il faut viser au moins 2 portions de fruits et 2,5 portions de légumes par jour. Une portion adulte, on rappelle que ça correspond à entre 80 et 100 grammes. Donc, ça peut être une tomate de taille moyenne, une poignée de radis ou de haricots verts, un bol de soupe, une pomme, 2 abricots, 4 ou 5 fraises, une banane. Voilà, donc ça, il faut vraiment essayer de respecter ça. C'est très important, notamment pour les fibres et les polyphénols antioxydants. Il faut remplacer les céréales raffinées par des céréales complètes pour au moins la moitié de notre consommation de céréales. Ça, c'est important, bien sûr, toujours les fibres et tout ce que ça peut apporter d'autre. Intégrer des légumes comme les lentilles, les pois chiches, les haricots dans son alimentation. Voilà, pas toujours les féculents qu'on a l'habitude de plus manger. Inclure une plus grande variété de sources de protéines, et notamment des sources végétales comme les légumineuses, et des sources de protéines maigres comme la volaille sans la peau, et les poissons. Alors on rappelle, les poissons, c'est une fois par semaine des poissons gras, pas plus parce qu'il y a les métaux lourds, et puis une fois par semaine des poissons moins gras. Préférer les repas maison, bien sûr, et choisir des aliments faibles en sel, en sucre et en graisse saturée. Les repas maison, c'est hyper important, parce qu'en fait, on sait bien que dans tout ce qu'on achète, il y a beaucoup de produits ultra transformés. Il y a aussi la problématique des transferts, en fait, des produits qu'il y a dans les emballages dans les aliments. Donc voilà, vraiment préférer les repas maison pour toutes ces... Et puis pour le fait aussi qu'on voit bien ce qu'on met dedans. Voilà. Donc, on connaît bien tout ça. Alors, je remarque que ça correspond vraiment beaucoup au régime méditerranéen que j'aime tant évoquer. En fait, ces recommandations sont très inspirées par le régime méditerranéen.
Le régime méditerranéen. Et vous, alors, petite question personnelle, parce que je sais que vous adorez. Vous cuisinez, quel est le plat que vous maîtrisez le mieux ? On s'invite chez vous à manger, vous nous faites quoi ? Un coq, monsieur ?
C'est peut-être le pot-au-feu, tiens.
Un petit pot-au-feu, ouais, ça c'est pas compliqué, ça. Prenez les légumes, vous les mettez à cuire, d'accord. Le petit pot-au-feu, très bien. Bon, c'était limite, j'ai dit croque-monsieur, mais le pot-au-feu, c'est plus sain. Le pot-au-feu, c'est plus sain. Alors, j'ai vu que vous avez, justement, vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Vous avez posté quelque chose à propos de l'histoire du régime méditerranéen. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Ouais, alors en fait j'ai fait ce post parce que il y a une naturopathe qui m'avait laissé un commentaire suite à une publication que j'avais fait sur les effets du kimchi sur la perte de poids, et elle avait laissé: notre microbiote n'est pas celui des Coréens, on risque de le perturber en mangeant régulièrement des produits issus de cette alimentation. La lactofermentation des légumes de notre terre d'origine est parfaite pour aider notre microbiote, pas besoin de le bousculer, il l'est déjà par notre stress, la pollution, les perturbateurs, etc. etc. Bon, j'ai pas répondu, mais j'avais en tête que les modèles d'alimentation traditionnels résultaient d'un grand brassage des cultures et que ça n'avait jamais posé de problème d'incorporer des ingrédients venus d'ailleurs. Et donc grâce à cet article-là que j'ai trouvé, qui est fraîchement paru sur l'histoire du régime méditerranéen, je peux lui répondre que même notre modèle d'alimentation de référence, il a sérieusement évolué au cours du temps grâce au brassage des populations. Et donc sans Christophe Colomb, nous ne mangerions pas de tomates. Donc, juste deux, trois choses. La diète méditerranéenne, ça a commencé avec les anciennes civilisations grecques et romaines. et qui se basait en fait principalement sur le trio pain, huile d'olive et vin, un peu de légumineuses et des fromages surtout de chèvre et de brebis. Et cette alimentation, ben, on voit qu'elle était principalement végétarienne et elle s'est enrichie lors d'occasions spéciales par de la viande, notamment consommée modérément. Et donc c'est avec la chute de l'Empire romain et l'invasion des peuples barbares que le régime méditerranéen s'est enrichi de produits issus de zones sauvages comme la viande de gibier et de porc ainsi que les légumes. Ensuite, il y a eu l'arrivée des Arabes en Italie du Sud au 9e siècle, ce qui a engendré une grande révolution culinaire parce que ça a permis d'intégrer des hydrates de carbone tels que les pâtes sèches et le riz, ainsi qu'une multitude de nouveaux fruits et de légumes comme l'aubergine, l'artichaut, les épinards, les bananes, les citrons, les oranges, et puis les épices telles que la muscade, le gingembre et le safran. Et donc les Arabes, ils ont également introduit le sucre de canne et qui a permis l'essor des confiseries que nous connaissons plus ou moins aujourd'hui. Et après, il y a eu la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb qui a introduit des produits alimentaires comme les tomates, les pommes de terre, le maïs, les haricots et le cacao. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a toujours eu des réticences, un peu comme cette naturopathe qui a répondu à mon commentaire. La rumeur selon laquelle la consommation de pommes de terre vertes contenant de la solanine toxique qui causait de graves troubles intestinaux a d'abord freiné leur adoption. Voilà. Et cependant, leur popularité a grimpé en flèche une fois que les gens ont appris à les utiliser au bon stade de croissance. Et donc, c'est un peu la même chose pour les tomates, qui, en fait, en raison de leur couleur éclatante, étaient considérées comme potentiellement toxiques. Et donc, elles ont mis du temps à convaincre les Européens de leur valeur culinaire. Et c'est qu'à la fin du 18e siècle qu'elles ont commencé à être reconnues dans les livres de cuisine avant de devenir un ingrédient phare de la cuisine méditerranéenne. Voilà, il y a d'autres anecdotes comme les graines de cacao qui ont été introduites en Europe par Christophe Colomb et qui n'ont pas tout de suite séduit parce que c'était très amer, et notamment dans la boisson préparée par les indigènes. Et donc c'est l'ajout de sucre et de vanille par l'évêque Francisco Juan Zumarraga, j'espère que j'écorce pas trop son nom, qui a transformé le chocolat en une gourmandise prisée. Voilà, et après ça a été succès, notamment auprès des cours royales et des intellectuels, et c'est comme ça que maintenant on mange autant de chocolat et de cacao.
Petit voyage dans l'histoire, merci. Merci, je ne vous savais pas aussi féru d'histoire de l'alimentation. En tout cas, merci Philippe, on marque une dernière pause. Et on se retrouve dans un instant, l'occasion de répondre à une question d'un auditeur, parce qu'on vous le dit souvent, si vous avez des questions pour faire suite à ces émissions, vous n'hésitez pas à nous envoyer ça sur le site nutriradio.fr avec le petit formulaire de contact. Et c'est ce que vous faites, et donc de temps en temps, on répond régulièrement aux questions. On va le faire avec la question de Guillaume dans un instant de Toulouse, c'est juste après ceci.
Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio.
Philippe Lenoir sur Nutri Radio qui nous a refait un peu l'histoire de la manière dont notre alimentation a évolué au fil des siècles en fonction des différentes arrivées sur le territoire, on va dire, pour résumer. Et cela nous amène à la question donc de notre auditeur Guillaume de Toulouse. Je vous invite à poser également vos questions au docteur Philippe Lenoir si vous le souhaitez sur la page de contact de nutriradio.fr. Donc Guillaume qui se demande si on peut influencer notre espérance de vie malgré nos gènes, par exemple à travers l'épigénétique. C'est vrai que c'est un sujet aussi qui revient de plus en plus, l'épigénétique.
Oui, alors je crois que il me semble que c'était une question qui avait été posée après l'émission qu'on avait faite sur la longévité. Alors oui, l'épigénétique nous montre comment notre environnement et nos choix de vie, y compris notre alimentation, peuvent influencer l'expression de nos gènes. Les modifications épigénétiques, elles agissent comme des réglages assez fins dans notre ADN. Ces modifications, elles influencent comment nos gènes sont exprimés. Et donc, des réglages optimisés peuvent contribuer à un vieillissement sain en maintenant nos cellules en bon état, tandis que les réglages inappropriés peuvent accélérer le processus de vieillissement en perturbant le fonctionnement normal des cellules. Donc, ce qui est à peu près admis, donc j'ai trouvé une revue systématique sur le sujet de l'épigénétique et la longévité. Et donc, voilà, ce qui est à peu près admis, c'est que les traumatismes dans l'enfance, ils agissent plutôt défavorablement sur l'épigénome, et surtout quand il existe un syndrome de stress post-traumatique sévère. Donc ça pourrait accélérer le vieillissement biologique, donc il ne faut pas hésiter à optimiser un maximum le mode de vie, et puis évidemment à se faire suivre. Alors, parfois les antidépresseurs peuvent, j'ai lu quelques études comme quoi ils pouvaient avoir une action épigénétique et inverser un peu le process. Donc quand il faut du médicament, il faut du médicament. Les troubles du sommeil et les modes de vie qui sont associés à des perturbations du sommeil, comme le travail posté à long terme, ça semble accélérer aussi le processus de vieillissement. Donc le sommeil, c'est hyper important. Souvent, on le néglige. l'indice de masse corporelle, IMC, élevé, et aussi une alimentation riche en graisse, c'est aussi ça accélère aussi le vieillissement épigénétique. Et au contraire, une situation économique confortable, un haut niveau d'éducation, une activité physique régulière, une consommation importante de fruits et légumes, un sommeil suffisant, une supplémentation en acides gras à chaîne courte aussi, un microbiote intestinal en bonne santé, tout ça, ça semble solidement lié à un ralentissement du vieillissement épigénétique. Et donc, il y a d'autres pistes qui sont toutefois moins solides. Par exemple, chez les drosophiles, cette espèce de petite mouche, réduire la température de leur environnement, ça a ralenti une modification chimique des protéines liées à l'ADN associée à l'âge, et donc ça a prolongé leur durée de vie. Alors, est-ce que ça fait pareil chez l'homme? On ne sait pas. Chez les humains, l'adaptation à des niveaux d'oxygène plus faibles en haute altitude, ça entraîne aussi des changements épigénétiques qui semblent ralentir le vieillissement, au moins in vitro, dans les prouvettes. Chez les souris, une alimentation réduite en calories, ça a montré un âge épigénétique nettement inférieur par rapport à leur âge chronologique. Et par exemple, les souris qui ont une alimentation avec 40% de calories en moins, elles ont montré un âge épigénétique considérablement réduit. Même une exposition de 4 semaines à une restriction calorique chez les vieux rats, ça suffit à atténuer certaines des altérations épigénétiques associées à l'âge. Chez les singes qu'on appelle les singes rhésus, une restriction de 30% de l'apport calorique, ça a aussi entraîné un âge épigénétique environ 7 ans plus jeune. Donc on voit que la restriction calorique a quand même quelques preuves animales d'une décélération du vieillissement. Chez les vers, ça c'est intéressant, une supplémentation en malate et fumarate, ça a augmenté la durée de vie.
Et oui, ça vous savez pourquoi ?
Comment ?
Vous savez pourquoi ? Parce que qui sait les plus forts, évidemment, c'est les vers. Donc...
D'accord. Non, j'étais pas du tout.
Pardon, je viens de me réveiller.
Bravo.
J'interviens, chacun apporte ses éléments. Vous apportez les connaissances, j'apporte les blagues. Vous voyez, c'est un petit
ça
peu...
Ça fait bien, parce que on est sur un sujet un peu,
mais
un
oui,
peu sérieux.
Exactement.
Et je suis sur un long monologue, donc... donc pour info, le malate, donc c'est sous forme d'acide malique, il est particulièrement abondant dans les pommes, il est également présent dans d'autres fruits comme les raisins, les cerises et les abricots, et puis aussi certains légumes, notamment les tomates et les carottes. Le vinaigre de cidre, par exemple, c'est une bonne source d'acide malique. Voilà, pourquoi pas. Alors, on ne sait pas si ça fait le même effet chez l'homme, mais en tout cas, ça fait pas de mal de manger ces aliments.
En plus, a priori, le vinaigre de cidre, enfin, depuis ce bouquin-là de Jessica Inchospé, La Révolution Glucose, où elle parle des avantages et des vertus nutritionnelles, pour notamment aussi sur l'effet de l'index glycémique, l'épiglycémique de ce vinaigre de cidre, j'ai l'impression que c'est un succès total.
Ah oui. Alors j'avais lu une étude, je ne sais plus si on en avait parlé d'ailleurs, effectivement, il y a quelques preuves que ça est efficace. Moi j'ai une patiente qui le consomme tous les matins à jeun avec du bicarbonate.
Et alors
dessous, et bon, ma foi, elle arrive à le boire, donc
ouais, c'est toujours...
ça va bien. Elle dit que si elle arrête ça, elle prend du poids.
D'accord, mais en attendant, elle va chez le médecin, elle vient vous voir tout le temps, donc ça veut dire qu'elle ne va pas si bien que ça.
Elle vient faire des cures thermales pour toi.
Ah oui, d'accord, ok, donc c'est... bicarbonate de...
Je pense que c'est pour tamponner l'acidité au niveau
les matins
de l'estomac.
C'est bon ça, du bicarbonate tous les matins?
Avec du vinaigre de cidre, ouais, parce que...
Vous validez?
oui, pourquoi pas. Ouais.
D'accord, bon, si vous avez
toujours en parler à son médecin, bien sûr.
Ah non, mais là, en plus, là, c'est pas du médicament, mais imaginons quelqu'un qui prenne... Je sais pas, est-ce que vous avez des habitudes comme ça? Bicarbonate plus vinaigre tous les matins, elle arrive à le boire, c'est chaud quand même.
Ouais, à mon avis, c'est pas très bon au goût, mais bon, elle s'y astreint et ma foi, ça a l'air de lui faire du bien. Elle a constaté d'autres bénéfices en parallèle, notamment sur les reflux gastro-œsophagiens. Alors ça, c'est peut-être plus le bicarbonate, mais voilà.
Après, faut pas avoir de l'hypertension, parce que bicarbonate tous les matins, je pense qu'en termes de sel, c'est un petit peu too much, mais bon.
Oui, il faut faire attention, puis il faut bien parler à son médecin à chaque fois, hein, quand on... En fait, surtout des comportements comme ça quotidiens, répétés. Voilà, il ne faut pas hésiter à en parler à son professionnel de santé, c'est sûr.
Et alors, est-ce que la restriction en glucose pourrait aussi augmenter notre espérance de vie?
Alors ça, c'est des études, chez les fibroblastes humains, donc c'est les cellules de la peau. Alors, bon, voilà, c'est des études... on va dire préclinique, il faut faire attention à ne pas extrapoler. Chez la souris, un régime riche en polyamine, ça pourrait aussi prolonger la durée de vie tout en diminuant le risque de cancer du côlon. Alors, globalement, c'est la putrécine, la spermidine et la spermine. Et au niveau des sources alimentaires, ce sont les fromages affinés, les céréales complètes, notamment le blé complet, l'orge et le riz complet, les pois chiches, les lentilles et les haricots. Bon, je pourrais en énumérer d'autres, mais voilà, globalement. Ensuite, la supplémentation en acide folique et en vitamine B12, ça c'est un essai clinique. Ça a diminué l'âge épigénétique chez les femmes ayant une activité génétiquement réduite au niveau d'un gène qu'on appelle le MTHFR. Bon, c'est un peu compliqué, c'est une enzyme, la méthylène tétrafolate réductase. Voilà, donc ça on le fait pas tous les jours, mais parfois on peut regarder l'expression de ce gène, notamment dans des situations d'infertilité, des complications de grossesse, des troubles cardiovasculaires, des problèmes de santé mentale. Voilà, donc si les personnes cumulent ces différents problèmes de santé, ben, on peut être amené à évaluer en fait l'expression de ce gène. Et donc s'il est muté, on peut être amené à supplémenter avec de l'acide folique et de la vitamine B12. Bon, on ne le fait pas tous les jours, mais voilà, il y a quelques preuves que ça pourrait, freiner le vieillissement. Et enfin, une intervention de 8 semaines. Alors ça, c'est peut-être le plus intéressant. Une intervention de 8 semaines, donc 2 mois sur le mode de vie, avec un régime optimisé, des probiotiques, ce qu'on appelle des phytonutriments, un sommeil suffisant, de l'exercice régulier et des conseils pour la gestion du stress. Et ben, ça a été testé dans un essai clinique chez des hommes entre 50 et 72 ans. Et cette intervention, elle a montré quoi ? Une réduction moyenne de l'âge épigénétique de 3,23 ans. Voilà, donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment de la médecine du mode de vie pure et dure. Donc, il y a d'autres études maintenant qui vont être menées. Et globalement, qu'est-ce que c'était ? Enfin, en détail, cette intervention, la prescription diététique, c'était de manger du foie 3 portions par semaine, environ 85 grammes par portion, 5 à 10 œufs par semaine, idéalement de poules élevées en plein air, biologiques et enrichies en oméga-3, avec des poules qui ont mangé des graines de lin. Les légumes verts foncés, 2 tasses par jour, voilà, crus, hachés, tassés. Le chou frisé, la blette, les épinards, le pissenlit, etc., etc. Les légumes crucifères, 2 tasses par jour, brocoli, chou, chou-fleur, chou de Bruxelles, d'autres types de crucifères, le chou rave, le radis, la blette, le navet. Les légumes colorés, 3 tasses supplémentaires de votre choix par jour. Les betteraves, 1 à 2 en moyenne par jour. Des graines de citrouille et de tournesol, 4 cuillères à soupe. Des adaptogènes de méthylation, alors ça c'est un peu plus compliqué, c'est les baies, le café, alors ça je connaissais pas, non pardon, le café, c'est moi qui bug, le curcuma, les gousses d'ail, le thé vert, et puis après des protéines animales, environ 170 grammes par jour, des animaux nourris à l'herbe, en plein air, biologiques, sans hormones ni antibiotiques, des fruits à faible index glycémique, on en parlait tout à l'heure de cet index glycémique, des huiles saines, voilà, comme l'huile de coco, l'huile d'olive, surtout l'huile de lin, et puis éviter les sucres ajoutés, les bonbons, certains produits laitiers, notamment ceux qui sont très gras, les céréales.
Les céréales riches en fibres, c'est bon ça ?
Oui, alors l'aspect précis, c'est les céréales, je pense, raffinées.
Ah voilà, ok.
Voilà, et puis ne pas manger entre 19h et 7h, donc il y a une espèce de jeûne intermittent là, avec une fenêtre d'alimentation un peu réduite.
Alors Philippe, juste, excuse-moi, je vous interromps parce qu'on arrive à la fin de cette émission et voilà, je pensais qu'il fallait absolument se dire au revoir maintenant, le mec il interrompt comme ça. Non, c'est bon, ça vous est revenu ce que c'était le café ?
Non, c'est-à-dire.
Vous avez bugué tout à l'heure.
C'était une cuillère à café, j'ai bugué.
Bon, merci Philippe, c'est terminé là. Je pense qu'on a. Vous avez dit le principal.
Non, c'est terminé. Il y avait juste l'activité physique, 30 minutes d'exercice par jour, 5 jours par semaine, un sommeil de 7 heures par nuit, et puis des exercices de respiration pour lutter contre le stress. Et puis voilà, c'est tout. Il y avait quelques suppléments, mais on n'est pas obligé de l'évoquer. Voilà.
Bon, il y a quelques suppléments nutritionnels.
Et puis voilà, les probiotiques notamment.
Ok, les probiotiques, effectivement, toujours très intéressant. Ces probiotiques. Merci beaucoup, docteur. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission. Et cette émission, vous la retrouvez en podcast à la fin de la semaine sur nutriradio.fr à partir de 18h ce dimanche. Merci Philippe. À la semaine prochaine.
Ouais, à la semaine prochaine, Fabrice. Ciao.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio.
Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutriradio.